Un bout de plastique, un toit enneigé, et c'est parti. Sur les réseaux sociaux, une corneille fait le buzz en s'adonnant au sport d'hiver. L'oiseau se place sur le faîte du toit, pose ses pattes sur le plastique et s'élance dans la pente avant de récupérer sa luge avec son bec et de recommencer. Une autre vidéo nous montre un de ses congénères utiliser des voitures comme casse-noix. Il lâche son déjeuner devant les véhicules à l'arrêt au feu rouge. Une fois le feu passé au vert, les autos roulent sur la coque de sa noix et il ne lui reste plus qu'à attendre que la voie soit libre pour récupérer son contenu. Pratique. Ici, sur les pelouses, on a plus de chances de voir ces corneilles noires, corvus coronées pour les savants, gratter les restes des pique-niques. Mais qui sait si elles n'en profitent pas aussi pour jouer un peu, seules ou à plusieurs, observer leurs comparses ou développer ensemble des techniques pour obtenir plus de nourriture. Car les corneilles, comme tous les corvidés, corbeaux, pigeons, choucas, chocards, craves, sont non seulement très intelligentes, mais très sociales. Elles grandissent et s'éduquent au contact les unes des autres. Leur organisation sociale est très complexe, au même titre que celle des éléphants, des dauphins ou des chimpanzés. On parle d'une organisation de type fission-fusion. Je m'explique. Les corneilles forment des couples durables, mais vivent aussi en bande, se séparant et se regroupant à différents moments de la journée ou de l'année pour effectuer diverses tâches, comme se nourrir, dormir, explorer, boire. La composition du groupe est donc à géométrie variable. Or, nos sombres oiseaux vivent relativement longtemps, au moins 15 ans a priori. Ils entretiennent donc forcément différents types de relations avec d'autres membres du groupe, ce qui implique d'avoir une bonne mémoire pour se souvenir, par exemple, de qui est proche de qui, ou qui est en couple avec qui, ou qui est fâché avec qui. Et cela induit aussi d'autres capacités cognitives, comme la reconnaissance, la catégorisation, etc. Pour certains scientifiques, au premier rang desquels Robin Dunbar, c'est la dimension sociale des espèces, et notamment des corneilles, qui induirait le développement de leur intelligence. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du cerveau social. Il est souvent difficile de répondre définitivement à une question sur les trajectoires de vie de nos corvidés, car elles ne semblent pas toutes tracées. La plupart des corneilles noires vivent leurs 3 premières années en bande, dont la taille varie selon les lieux d'observation et les ressources disponibles. Mais pas toutes. Certaines restent auprès de leurs parents et les aident avec les pontes suivantes. En Espagne, une équipe menée par la chercheuse Daniela Canestrari a non seulement observé des corneilles non matures aider leurs parents à élever les petits, mais aussi d'autres individus, qui ne faisaient pas partie de la famille, participer au nourrissage et à la protection du nid. Certaines corneilles pratiquent donc ce qu'on appelle la reproduction coopérative. Précisons quand même que c'est assez exceptionnel, d'autant que ces oiseaux construisent leur nid en couple, à l'écart les uns des autres, sauf si aucun autre site favorable n'est disponible, et qu'elles sont tenues de surveiller les fondations au risque de se voir chipper les matériaux par d'autres couples. Elles reconstruisent d'ailleurs chaque année un nouveau nid, et bien qu'elles continuent de vivre avec la même partenaire a priori toute leur vie, ou en tout cas très longtemps, elles renouvellent les jeux nuptiaux pour entretenir les liens qui les unissent. Tendez l'oreille. Vous entendez ce cri rauque et puissant ? Eh bien, c'est une corneille. On ne parle pas de chant pour cet oiseau noir des pieds jusqu'au bout du bec, mais bien de cri. Écoutez comme il se répète plusieurs fois de suite. On dit que les corneilles criaillent, babillent, graillent et corbillent. C'est d'ailleurs leur cri qui est à l'origine de leur nom, dans moult langues, notamment en anglais où corneille se dit « crow ». Il existe beaucoup de variations de cris en fonction des individus et des situations. Des scientifiques pensent qu'avec leurs attitudes et leurs vocalisations, ceux-ci composeraient une forme de langage, pareil à nos mimiques, en plus de décliner une identité et transmettre une information. Car chaque oiseau a sa propre voix et est reconnaissable par les autres quand il communique avec ses semblables. Il a notamment été montré que les corneilles étaient capables de faire la distinction entre le cri d'un congénère fiable et celui d'un congénère qui l'est moins. Elles adaptent leur comportement en fonction. Une autre étude met en évidence le fait qu'elles font la différence entre des individus qu'elles connaissent et des inconnus, au-delà de leur seule espèce, et simplement à la voix ou au cri émis. À leurs oreilles, un chouka n'en vaut donc pas un autre, et tous les humains ne se ressemblent pas. Vos voisines à plumes noires vous distinguent parmi la foule. Et vous, sauriez-vous faire la différence, à l'oreille, entre deux corneilles ? Et d'ailleurs, sauriez-vous affirmer que vous êtes en face d'une corneille Et pas d'un corbeau freux ou d'un chouc à détour présent aussi en vie? La corneille est toute noire, alors que le corbeau freux a un bec gris et que les choucas des tours sont bleu-gris avec une nuque grise. Au sol, elles se déplacent en sautant, quand les corbeaux, eux, marchent. En l'air, elles ne planent qu'en descente, et leur vol est direct, ce qui a donné naissance à l'expression anglaise « as the crow flies », équivalent à notre « à vol d'oiseau ». Cela fait des lustres que la corneille est confondue avec le corbeau, et inversement. Les contes et autres récits mythologiques ne sont pas toujours très précis quand il s'agit d'évoquer cet oiseau noir qui plane alentour. Quoi qu'il en soit, ils témoignent d'une cohabitation très ancienne. On sait que les corneilles se sont très tôt nourries des restes de repas d'humains et qu'elles auraient elles-mêmes servi de nourriture à nos ancêtres, car on a trouvé leurs ossements dans de nombreux sites occupés par Néandertal. On a même des traces de leur exploitation par Homo sapiens. Les interactions humains-corneilles sont tellement anciennes que le biologiste John Marsloff les a décrites comme une coévolution culturelle. Chacune de ces deux espèces aurait eu, au fil du temps, un impact sur les pratiques de l'autre. Il faut dire que les corneilles ont ce qu'on appelle une habituation très rapide et qu'il ne fait aucun doute que nos modes de vie ne sont pas sans effet sur leurs habitudes. À les observer en ville, on les sent plutôt à l'aise à surfer sur du plastique ou utiliser nos véhicules comme casse-noix. C'est qu'elles sont capables de comprendre très vite les situations et de trouver des solutions à leurs éventuels problèmes. La célèbre fable de l'écrivain grec Ésope, vérifiée depuis par un ensemble d'expériences, en fait la démonstration. La corneille ayant soif, trouva par hasard une cruche où il y avait un peu d'eau. Mais comme la cruche était trop profonde, elle n'y pouvait atteindre pour se désaltérer. Elle essaya d'abord de rompre la cruche avec son bec. Mais n'en pouvant venir à bout, elle s'avisa d'y jeter plusieurs petits cailloux qui firent monter l'eau jusqu'au bord de la cruche. Alors, elle but tout à son aise. Pour le moment, on ne les a vus utiliser des outils pour accéder à l'objet de leur convoitise qu'en captivité et après avoir été entraînées, ce qui indique quand même qu'elles sont capables d'acquérir de nouvelles compétences dont elles n'ont sans doute pas besoin en milieu naturel. Si on considère bien sûr que faire d'un véhicule un casse-noix ne peut être considéré comme utiliser un outil. Ce qui leur est très utile en revanche, c'est de mettre un aliment dans une poche qui se situe sous leur langue pour aller le cacher en vue d'un prochain repas. Parce que comme beaucoup d'oiseaux, durant l'hiver, la période creuse où il n'y a pas de nid à faire ni de petits à élever, elles passent le gros de leur journée à se nourrir et à chercher de la nourriture. Des graines, des petits rongeurs, des limaces, des escargots, mais aussi des steaks, des frites, du pain, des tomates et autres résidus bienvenus de nos déjeuners. Les corneilles, outre qu'elles ont besoin de beaucoup s'hydrater, ne sont pas difficiles. On les dit opportunistes. Elles mangent un peu de tout. Et en France, depuis l'adoption du plan Vigipirate en 1995, qui a conduit à laisser visibles les sacs poubelles à présent transparents, elles peuvent se servir directement à la source. Devenues amatrices de fast-food, certaines d'entre elles repèrent les sacs d'une célèbre chaîne de burgers et viennent déchirer le plastique pour accéder au reste de cette nourriture industrielle. Or, ces ressources abondantes ne sont pas sans effet sur leur population. Si elles occasionnent certes des carences, manifestées par le plumage en partie blanchâtre de certains individus, elles contribueraient directement à la croissance des populations. En Île-de-France, et à Paris en particulier, un programme de suivi a montré que leur nombre a fortement augmenté depuis les années 70. Avoir de quoi manger à portée de bec, ça attire et maintient en vie. D'autant qu'en ville, contrairement à la campagne où elles sont historiquement implantées, à proximité des cultures, elles ne sont pas chassées à coups de carabine. Eh oui, parce qu'en France, elles sont classées ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Il faut dire que la cohabitation avec les humains n'est pas toujours simple. La thèse de Perrine Lequitte-Charansol, soutenue en 2023, en témoigne. Démographie et réduction des nuisances des corneilles urbaines. Une coexistence est-elle possible? La chercheuse s'est penchée sur les populations présentes à Paris, notamment pendant le confinement, où nos déchets alimentaires tendaient à manquer dans l'espace public. Ces travaux montrent que la survie des jeunes corneilles a chuté considérablement pendant cette période. Les populations de Corvus coronae sont donc dépendantes de nos restes. Elle montre aussi que la ville attire avec sa nourriture abondante et suggère qu'en concentrant les mesures sur la réduction de l'attractivité et des dégâts dont les jardiniers se plaignent, plutôt qu'en tuant les oiseaux, on devrait pouvoir cohabiter plus sereinement. Moins de déchets alimentaires disponibles et de l'herbe haute plutôt que du gazon pourrait arrondir les angles. Une autre étude menée dans le Grand Paris indique que la corneille est l'espèce la plus rejetée après le pigeon bisé. Son cri nous agace, sa lissure aussi, et puis on la tient pour responsable de la chute des populations d'autres volatiles, ce que de nombreuses études démentent, car s'il leur arrive de manger des œufs ou des petits oiseaux, elles n'ont de réel impact que sur les populations de faucons cresserelles et de hiboux moyen-duc, plus populaires, mais incapables de se construire leur propre nid et qui ont donc besoin des vieux nids délaissés des corvidés. On les dit aussi agressives et de mauvais augure. Or, les comportements bagarreurs sont le fait d'individus isolés, comme dans beaucoup d'espèces. Et pour les corneilles, comme pour tout groupe social, il est toujours dangereux de généraliser. Serait-il possible, parfois, de regarder sous ses plumes noires et de considérer son rôle écologique ? Car en plus de disperser les graines, la corneille est un agent sanitaire. Elle mange les individus malades, faibles, voire les cadavres, et ce faisant, limite la propagation des maladies et maintient le milieu sain. Mais comme d'habitude, ce type de petits travaux n'est pas considéré. Quant aux superstitions, ça, c'est une autre histoire, très ancienne, et qu'il serait trop long de développer ici, mais à laquelle, au siècle dernier, un certain Alfred Hitchcock a largement contribué.